Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais lire comme introduction de ce sermon un verset de l'Évangile de selon Luc du chapitre 22. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Chers sœurs et frères, c'est le début de notre réunion. Un vent froid souffle de la mer, mais cela ne vous dérange pas trop. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà trouvé une demeure, une tente, un caravan ou un lieu où vous vous êtes installé. Vous avez trouvé une bonne place pour y habiter. Le passage de la parole de Dieu que nous venons de lire, vous rappelez-vous de quel contexte il vient? C'est des paroles de Jésus pour Pierre. Nous nous rappelons, nous connaissons bien Pierre dès son petite enfance. On a parlé de notre enfance. Nous avons appris que Pierre était un disciple de Jésus, un homme courageux, toujours prêt à parler. Ici, nous avons la prière de Jésus pour Pierre. Nous pourrions examiner un petit moment la prière. Dans la Bible, nous pouvons lire que la prière et le fait de prier, c'est un don pour nous chacun. La prière d'un juste est puissante parce qu'elle est vraie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une prière est vraie? Je dirais que qu'il signifie que si on croit même faiblement à la réalisation de notre prière, ou bien si on croit que quelqu'un entend notre croix, même un petit soupir qui part du cœur est une vraie prière. La Bible nous enseigne aussi à prier, à beaucoup prier. La Bible nous exhorte à prier sans cesse. Dans le psaume 1, on nous enseigne de ne pas voyager parmi les non-croyants, mais d'examiner la loi du Seigneur le jour et la nuit. Cela peut sembler un peu dur d'examiner la loi du Seigneur le jour et nuit. Mais n'est-ce pas que c'est la prière du cœur envers Dieu, la prière « Sois avec moi ici, dans la vie quotidienne, tous les jours. » Le cœur d'un croyant est un cœur priant. Et toujours quand on va se coucher, quand on dort, quand on travaille dans la journée, on peut toujours avoir cet esprit de la prière. Je crois que la Bible, la parole de Dieu veut dire cela quand elle nous dit de prier sans cesse. Jésus, dans son sermon à la montagne, Il nous dit de ne pas prier comme certains maîtres de loi ou pharisiens qui aimaient aller ici et là avec de grosses bibles et avec des costumes bien visibles pour qu'ils soient respectés par les gens à cause de leur extérieur. Jésus ne nous dit pas de prier pour paraître quelqu'un de bien, mais il nous exhorte à prier dans le secret, de fermer les portes et de prier dans le silence. Et il dit que le Père nous répondra même d'une façon publique. Chers visiteurs de cette réunion, tu as déjà prié que ton voyage, que ton chemin vers la réunion se passe bien. Mais avant tout, nous avons prié que Dieu nous entende et que nous puissions, que nous ayons de l'encouragement pour notre foi. Quelqu'un a peut-être prié, Dieu, accompagne-moi dans la maison du Père dont je me suis égarée. La Bible, elle nous promet que ces prières seront entendues. Jésus nous exhorte à prier aussi pour tous les gens, non pas seulement pour nos prochains, pour lesquels il est sans doute assez facile de prier et il nous est important de prier pour nos prochains. Mais l'enseignement de Jésus, c'est de prier même pour nos ennemis. Combien d'entre nous est capable à ce genre de prière, de prier pour des personnes avec lesquelles on ne s'entend pas bien. Mais pourtant, la Bible nous exhorte à le faire. Dans le sermon à la montagne, il y a des paroles qui démontrent que nous sommes impossibles comme prieurs. Dans ce sermon, on démontre que nous ne sommes pas acceptables sans la grâce du Christ. Jésus nous dit d'être parfait, impeccable, comme notre Père céleste est impeccable. Cela est impossible si nous ne tournons pas nos yeux vers celui qui est parfait, c'est-à-dire le Christ. Lui seul, c'était un homme parfait. Nous avons besoin de la grâce et du pardon. Jésus parlait souvent dans la Bible, dans différents contextes. Il priait, entre autres, pour Jérusalem, pas tellement pour la ville, mais pour les habitants de Jérusalem, pour le peuple promis, Jésus, quand il travaillait publiquement pendant 2 ans à peu près, sa vocation c'était de prêcher la repentance pour son propre peuple. Mais nous connaissons certains passages de la Bible où Jésus ouvrait la parole de la grâce à n'importe qui venait devant lui. Mais Jésus voulait dire à propos de Jérusalem et à propos des Juifs que j'ai voulu vous rassembler sous mes ailes comme une poule, une mère poule. Mais vous n'avez pas voulu venir chez moi. Et c'est pourquoi ces paroles sont proclamées aux païens. Alors, les paroles que nous avons lues étaient adressées à Pierre. Jésus appelait Pierre à être son disciple. Pierre avait probablement déjà écouté de l'enseignement de Jean le Baptiste et il avait entendu parler de la troupe des disciples de Jésus, mais Jésus l'a personnellement invité à être son disciple au moment où il était en train de pêcher. Il lui a dit, « Viens et suis-moi. » Nous nous rappelons plusieurs situations où il y avait Jésus et Pierre. Pierre, c'était un homme courageux. Par exemple, une fois, Jésus demanda à ses disciples, « Qui est-ce que les gens disent que je suis ?» Quelqu'un des disciples lui répondit, « Certains disent que tu es un prophète. » Puis Jésus leur demanda, « Mais qui pensez-vous que je suis ?» Et Pierre se précipita à lui répondre, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus répondit à Pierre, « Là, ce n'est pas ta chair et ton sang qui t'a donné cette réponse, mais c'est le Saint-Esprit. Toi, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je veux fonder mon Église. » Nous pourrions nous demander si Pierre était exemplaire jusqu'à la mesure que Jésus l'a placé au-dessus des autres. Mais non, je pense que c'est la foi du cœur de Pierre, la foi sur laquelle Jésus voulait fonder son Église. Pierre, comme les autres apôtres aussi, on disait que c'était le fondement de l'Église dont la pierre d'angle était Jésus-Christ lui-même. Nous nous rappelons beaucoup de situations où Pierre, où Pierre hésite, où il fait voir sa nature humaine qui règne en nous aussi. Par exemple, une fois Jésus lui dit, « C'est à toi que je donne les clés du royaume de Dieu. Tu as le droit de libérer les gens ou de pécher. » Pierre lui répond, « Jésus dit que je serai bientôt tué sur la croix. » Et là, Pierre prend la main du Christ et lui dit, « Non, Seigneur, je ne veux pas que cela soit fait à toi. » Pierre, il ne comprenait pas que c'était ce qu'il fallait se faire. Là, nous voyons la nature humaine, les pensées humaines de Pierre. Il voulait que quelqu'un d'autre mourisse et non pas notre maître. Vous rappelez-vous combien Jésus était rude en répondant à Pierre, « Va-t'en, Satan, cela Cela ne vient pas de Dieu, cela vient de Satan. C'est avec ces mots que Jésus devait enseigner à Pierre que nous devons suivre notre vocation. Nous devons réaliser la volonté de Dieu, que ce soit agréable ou non. Et nous savons que le destin de Jésus n'était pas agréable pour lui, mais pourtant il ne voulait pas éviter ce que Dieu attendait de lui. Souvent, dans d'autres contextes, les disciples se plaignaient, même s'ils voyaient les travaux miraculeux de Jésus, ils se plaignaient la faiblesse de leur foi. Par exemple, une fois, Jésus raconte combien il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, les disciples lui demandèrent, « Alors, qui est-ce qui pourra être sauvé ?» Et ils leur disent, « Jésus, augmente notre foi. » Et Jésus leur répondit, « Mais pour Dieu, tout est possible. » Nous nous rappelons aussi le camarade doutant de Pierre, Thomas, qui avait besoin de toucher les côtes et les blessures de Jésus avant de pouvoir croire. Et à lui, Jésus, il dit, « Crois, Thomas, ne sois pas non-croyant. Celui qui croit sans voir, il faut croire sans voir. » C'est ce qu'on s'attend à nous aussi aujourd'hui, de croire même sans voir. Il est bien vrai qu'ici, sous cette tente, nous pouvons sentir assez concrètement l'atmosphère chaleureuse. Nous pouvons éprouver le soleil de la grâce qui nous réchauffe toujours. Mais pourtant, dans notre vie quotidienne, nous avons souvent des doutes. Nous demandons à Dieu de nous donner des signes pour mieux croire. Les pharisiens, eux aussi, ils demandaient à Jésus de leur donner des signes. Jésus, lui, il fit beaucoup de travaux miraculeux pour montrer la puissance de Dieu. Mais ce n'était pas quelqu'un, c'était pas un animateur ou quelqu'un qui faisait des trucs juste pour convaincre les gens. Jésus, il enseignait toujours qu'il suffit de croire que les péchés sont pardonnés. Là où il guérissait des malades, il soulignait toujours la nécessité de croire au pardon des péchés. Nous sommes des gens comme Pierre et Thomas. Notre esprit d'âme, nos sentiments changent tout le temps. Nous sommes quelquefois de mauvaise humeur quand nous avons des épreuves et des tribulations. Nous ne sommes pas des soleils ambulants, mais la Bible nous exhorte à rester patient, ne pas nous fâcher trop facilement. La Bible ne nous interdit pas les sentiments humains, mais elle nous enseigne à les atténuer. Elle nous enseigne que si nous avons la foi dans notre cœur, nous avons tout.
Mm.
Dans la Bible, on dit à un prêcheur que tu peux bien être chaud ou froid, mais si tu n'as pas de sentiments, si tu es endurci, là c'est grave. Que le Seigneur nous bénisse de ce sorte d'endurcissement, de nonchalance. Dans la Bible, on raconte aussi des situations où il était facile pour les disciples de croire. Par exemple, là où Jésus envoya ses disciples au travail de mission, il leur dit « Allez dans les villes et dans les maisons et offrez le message de la paix. Et celui qui reçoit ce message le gardera. Mais si les gens ne veulent pas vous entendre, quittez-les. » Et les disciples, quand ils revenaient de leur voyage de mission, ils dirent à Jésus que même les mauvais esprits nous obéissaient. Et ailleurs, dans la Bible, on nous raconte que les disciples éprouvaient de la joie quand ils pouvaient proclamer le pardon des péchés. Jésus leur dit pourtant: réjouissez-vous avant tout du fait que votre propre nom se trouve dans le livre de la vie. Et nous aussi, nous pouvons nous réjouir de notre foi personnelle. Et puis encore un autre contexte où il était facile pour Pierre de croire. Si je regarde la porte de la réunion de cet été, quand je la regarde, cela me fait penser à la situation où Jésus emmena Pierre, Jacob et Jean sur la montagne de la transgression. Et là, à ce moment-là, il était facile à Pierre de croire. Pierre, il dit: Seigneur, ici, il est facile à être. Nous construisons trois huttes, un pour Mou, un pour Élie, etc. Je ne suis pas sûre. Pierre avait de très bons sentiments. Il était si heureux de sa foi. Beaucoup de gens ont dit qu'ici, à cette réunion d'été, il est facile de croire. Il est facile à être avec une grande famille ou être sans famille. Et c'est quelques jours que nous restons ici, ils sont là pour nous servir de source pour la vie de la foi. Mais Pierre, l'homme courageux, toujours prêt à répondre, vite à répondre. Pierre, dans notre texte, avant notre texte, Jésus dit à ses disciples que si on bat le berger, les brebis s'écartent. Mais là, Pierre lui répondit, « Je préfère mourir au lieu de te nier. » Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. » Imaginez Pierre qui allait nier Jésus trois fois, Jésus son Seigneur, son Maître. On dit qu'il est facile de croire si on est riche, quelquefois on dit qu'il est encore plus. Il est moins facile à croire si on a beaucoup d'argent et si tout va bien. Mais si on a des souffrances, on a des problèmes, là, il est peut-être plus facile à croire, à se tourner vers Dieu, à demander de l'aide. À ces moments difficiles, beaucoup d'entre nous prient le Seigneur pour qu'il envoie quelqu'un à nous bénir, à nous aider. Mais c'est une bonne prière. C'était la prière de David aussi. Pierre a donc dû s'humilier, à se repentir. Dans la Bible, on décrit aussi des problèmes de nos modèles de disciples pour que nous puissions voir que c'était des hommes pareils à nous. Paul aussi, une fois, il lui arriva de devoir reprocher Pierre. Pierre, il était entré dans une maison païenne, mais à cause des Juifs, il évitait de communiquer avec les païens. Et là, Paul, il reprochait à Pierre d'agir de cette manière. Il lui dit de penser à la visite de chez la famille de Corneille. Paul lui enseigne que nous devons rester droits au milieu du monde non croyant. Nous n'avons pas besoin d'avoir honte. Nous pouvons croire librement, nous pouvons nous réjouir de notre foi. N'ayez pas honte de l'évangile du Christ, car c'est la puissance pour chacun d'entre nous, pour notre salut. La prière de Jésus, afin que ta foi ne défaille pas. Jésus, il savait que Pierre allait tomber dans le péché, mais il priait pour que Pierre n'aille pas dans le monde, pour que cette chute ne lui serait pas trop dure, pour qu'il ait le courage de s'en repentir et de demander de l'Évangile. Jésus prie pour nous aussi, pour chacun dans le ciel. Il prie que nous voulions confesser que lui, c'est notre maître. Il me vient à l'esprit aussi le fait que la chute de Pierre était d'un autre type que celle de Judas. Une fois, quelqu'un m'a demandé si je serais prêt à baptiser un petit bébé et lui donner le nom Judas. Je lui ai dit, je lui ai répondu, non, je ne pourrais pas le faire parce que Judas, c'était quelqu'un qui avait un cœur endurci, quelqu'un qui trahit Jésus. Il avait une mauvaise confiance qui l'a conduit à la non-croyance. Et le pauvre Judas, il trahit son Seigneur. Pierre, il le nia, mais Judas, il le trahit. Judas, il connaissait les conséquences de son acte. Il avait une mauvaise confiance, la mauvaise confiance après son acte. Mais il n'a pas bien choisi le lieu où il est allé parler de son trouble. Il est allé chez quelqu'un qui ne s'intéressait pas à la mauvaise conscience de Judas. Mais il lui répondit, cela ne m'intéresse pas, c'est ton affaire. Ici, dans le royaume de Dieu, on ne dit à personne, c'est pas mon affaire, mais ici, on prêche le pardon des péchés à tout le monde. Ici, à ce moment, on a le droit de croire que les péchés sont pardonnés au nom et au sang du Seigneur Jésus. Croyez que tous vos péchés sont pardonnés. Moi, qui suis ici devant vous, je veux demander si vous me prêchez le pardon de tous les péchés. J'ai envie de croire dans la troupe des enfants de Dieu. Ne suivez jamais les pas de Judas. Nous sommes des pierres tous. Nous tombons dans le péché. Il nous arrive de ne pas avoir le courage de confesser notre foi, par exemple. Mais aussi, à ces moments-là, Dieu nous donnera la force. Ce n'est pas de notre propre force que nous agissons. Rappelez-vous Pierre, après qu'il avait nié Jésus, il avait de très mauvais sentiments. C'était une catastrophe pure pour lui. Mais qu'est-ce qu'il fit, Jésus? Il vit Pierre. Leurs regards se croisèrent. Et le regard de Jésus, il était miséricordieux. Mais Pierre, il alla, il pleura. Mais il alla chez les siens, chez ses frères. Puis, bientôt, il entendit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'un ange lui envoya. Le Christ était ressuscité. Les péchés sont pardonnés. Chers visiteurs, vous pouvez croire que vos péchés sont pardonnés aussi. Vous qui n'avez pas la foi vivante dans votre cœur, vous pouvez le recevoir maintenant. Le pardon des péchés est proclamé dans le royaume de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit. Si tu ne crois pas et que tu as des doutes, va et lire la Bible, examine la Bible. Les Juifs, eux aussi, ils examinaient la Bible et beaucoup d'entre eux durent constater que Pierre avait bien parlé. Croyez que vos péchés sont pardonnés. Ne partez pas suivre Judas, mais possédez l'Évangile dans votre cœur. Vos péchés sont tous pardonnés. Au nom de Jésus, amen.